n'ôtait pas la peur. Ils avaient tous peur. Terrifiés comme on ne peut l'être. L'effroi des autres, il le suppose, il ne connaît que le sien. Pourtant, avec une netteté terrible, il voit encore leurs yeux grands ouverts, vitreux d'angoisse, leurs mains impossibles de maîtriser leurs tremblements. Il entend leur discours brut, âpre. Ils disaient à leur façon la même chose, la même terreur que ces notes de musique. Il se souvient avoir pensé ça, qu'ils allaient tous y rester. Il s'était trompé. La plupart étaient morts, pas lui. Il est encore là pour en parler avec elle qui l'écoute. Les yeux immenses, elle boit ses paroles. C'est pour ça qu'il est revenu. Pour raconter ça, l'horreur de ces moments, un jour, aujourd'hui, à quelqu'un qui l'écoute, à quelqu'un qui le croit. Il espère qu'il le comprend. Elle l'a écouté patiemment, presque religieusement, sans l'interrompre, lui raconter sa guerre. Toute cette période, elle ne s'en souvient pas vraiment. Elle était toute gamine, elle l'a vécue sans rien en comprendre. C'est après l'armistice seulement qu'elle en avait conclu des choses. Quand les hommes étaient rentrés du front, elle se rappelle ces soldats encore vêtus de leur uniforme. On les voyait partout. Petits groupes tristes dans les rues, assis à même le sol, tassés dans des fauteuils d'infirmes. Désœuvrés, alcooliques, estropiés, gueules cassées. Ils mendiaient la pitance qu'ils ne pouvaient plus gagner, que l'État peinait à leur fournir. Des hommes médaillés souvent, leur gloire inutile s'étalait sur leur poitrine. Des hommes devenus de mauvais souvenirs. Personne ne voulait plus d'eux. D'anciens héros, des poids morts. Bien entendu, elle ne lui a rien soufflé de tout ça. Elle s'est tue. Mais il a compris quand même. Il savait déjà. C'est bien pour ça qu'il ne sort pas. Les regards penchés, presque haineux, de certains inconnus sur lui, sur son fauteuil à roulettes, sur son visage absent. Il ne peut plus. Il a envie d'une cigarette. Fume-t-elle? Oui, à l'occasion. C'est l'occasion. Elle tire de la poche de son tablier du papier, du tabac. Elle s'applique à rouler, serrée, serrée, une de ses fines cigarettes, longues, goûtues, comme dit son homme. Monsieur la presse, il sent monter la salive tant il en a envie. Il n'a pas fumé depuis si longtemps. Avant tout ça, il ne disait pas non à une pipe. Puis la somme, puis sa bouche, puis ses mains, puis Alexandrine qui n'aime ni l'odeur ni le geste. Il fumerait bien volontiers plus souvent, mais comment? Il s'interrompt. Elle a fini de rouler la cigarette, tassée sur le dos de sa main tendue, tenue entre ses lèvres pincées pour l'allumer. La longue flamme l'éclaire brièvement. Il lit de la malice dans ses yeux. Il est son complice, l'associé d'un mauvais coup qu'ils auraient monté tous les deux. Il ne faudra pas en parler à Alexandrine. Elle ôte du bout des doigts, délicatement, les yeux au ciel, quelques brins de tabac que la cigarette roulée a déposé sur sa langue rose et pointue. Elle sourit, puis, entre le pouce et l'index, elle lui tient le mégot juste au bord de ce qui lui sert de lèvres. À son tour, il peut aspirer la fumée, le picotement délicieux, la chaleur parfumée. En silence, il fume, en alternance, la toute petite cigarette, roulée bien serrée. Elle parle et Blaise l'entend à nouveau. Elle se tait et il l'entend toujours. Cette douce mélodie, ces accords minuscules qui roulaient en permanence à son oreille et que les épreuves ont tué plus sûrement que le reste de lui-même. La petite bonne a réussi à ranimer ça. Elle n'a rien fait pour, elle ne le sait même pas. Mais lui la guette, cette symphonie discrète qui s'élève autour d'elle et qui l'accompagne partout.